Bonsoir. Le chef de la MONUSCO a déclaré la semaine dernière devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le processus électoral en RDC est dans une impasse. Mamane Sidibou estime que d'importants obstacles devraient être surmontés afin que les élections puissent se tenir. Selon lui, un dialogue crédible entre tous les acteurs politiques est dès lors indispensable. Et comment analyser la déclaration du chef de la MONUSCO? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 30 mars 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Délice Sanga. Il est député national de l'opposition et président du parti politique En Vol. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD, lui aussi va nous rejoindre dans un tout petit moment. Le professeur Moïla Tiembe est en ligne. Il est directeur de l'Institut panafricain de géopolitique d'Nancy en France. Professeur, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Cédric Kabouya qui pense que le dialogue est une bonne chose. Mais quel type de dialogue se démontre-t-il? Il poursuit en disant, c'est vrai, nous accepterons un dialogue crédible comme Mamane l'a souligné, mais aussi dans le respect de la constitution et le respect du processus électoral selon le délai constitutionnel. Merci de nous suivre à Kananga dans le Kasaï central sous la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un dialogue politique crédible est nécessaire pour surmonter l'impasse dans le processus électoral. Déclaration mercredi 23 mars au Conseil de sécurité de l'ONU à New York de Mamane Sidibou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Le chef de la MONUSCO estime que d'importants obstacles devraient être surmontés afin que les élections puissent se tenir. Les propos de Mamane Sidibou ont été recueillis par Paul Matendo.
Les risques de violence pour nous sont réels si les différends entre les acteurs politiques ne sont pas réglés. Une des étapes clés vers la tenue d'un scrutin crédible reste la révision du fichier électoral. Une avancée dans ce domaine permettrait de lever un des points de blocage. Le soutien de la MONUSCO pour réviser le fichier électoral sera nécessaire. Néanmoins, pour limiter les risques liés à une telle implication, l'obtention préalable d'un consensus politique entre tous les acteurs est cruciale. Ceci contribuerait à surmonter un des nombreux obstacles et constituerait une première étape cruciale dans les efforts visant à assurer l'organisation d'un scrutin crédible. Durant sa récente visite en République démocratique du Congo, le secrétaire général a appelé le président Kabila, les présidents des deux chambres du Parlement et les représentants des partis d'opposition, de la majorité et de la société civile à s'engager de façon constructive dans un dialogue politique qui met les intérêts de la population au centre des débats. À cet effet, nous travaillons étroitement avec l'Union africaine et soutenons ses efforts en vue de faciliter un dialogue politique avec l'appui des partenaires régionaux et internationaux.
C'était la Mamane Sidibou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Et puis, sachez que la résolution 2277 de l'ONU est tombée cet après-midi. Celle-ci reconduit pour une année sa mission en République démocratique du Congo et appelle Kinshasa à tenir rapidement des élections libres et crédibles. Une résolution proposée par la France et adoptée à l'unanimité exhorte le gouvernement et toutes les parties prenantes à garantir un processus électoral libre, équitable et crédible et la tenue d'élections en temps voulu en accord avec la Constitution. François Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Quelle lecture vous faites de la déclaration de M. Sidibou?
Je crois que ce que M. Sidibou vient de dire aux Nations Unies l'a été par Joseph Kabila en premier, dans son discours convoquant les dialogues inclusifs, où il appelle tous les politiques congolais à s'asseoir autour d'une table pour discuter des questions essentiellement électorales. Et donc, Sidibou, comme il l'a dit lui-même, il vient à la suite aussi du point de vue du secrétaire général des Nations Unies, qui appelait la même chose, à la suite aussi d'un communiqué co-signé par les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, qui appelle la classe politique congolaise à s'asseoir autour d'une même table et se mettre d'accord sur les modalités d'organisation des élections crédibles, transparentes et surtout pacifiques. Et donc,
vous êtes d'accord avec lui lorsqu'il dit que le processus électoral en RDC est dans une impasse ?
Oui, c'est clair que nous sommes dans une impasse. Tout le monde l'a reconnu. Ce n'est vraiment pas la première fois qu'on en parle. Le président de la CENI lui-même l'a dit dans ses sorties récentes. La première conférence de presse qu'il a tenue, il a répété la même question sur la voix de l'Amérique. Et donc, nous tous, aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas en mesure d'organiser les élections dans les délais, sauf si des moyens extraordinaires arrivaient à être réunis, des moyens financiers, des moyens humains en logistique, pour pouvoir finaliser le travail de la révision du fichier électoral. Et si nous pouvons faire une impasse sur la question d'enrôlement des nouveaux majeurs, il faut qu'il y ait un consensus, parce que c'est un droit reconnu par la Constitution qui dit que toutes les personnes ayant 18 ans et révolues ont le droit d'être électeurs et éligibles. Au-delà de ces questions, le rapport de l'OIF a démontré que le fichier électoral que nous avons aujourd'hui comprend des millions de décédés, comprend des doublons, comprend des fictifs. Et donc, ces questions-là exigent une révision du fichier électoral, sans oublier l'aspect qui fait qu'aujourd'hui, les adresses de beaucoup d'électeurs ont changé avec les nouvelles provinces. Donc, il y a un impératif, c'est celui de la révision du fichier électoral, qui doit se faire le plus rapidement possible.
Et pour cela, vous estimez que la classe politique doit se retrouver autour d'une table pour en parler, pour en discuter?
Oui, je crois que c'est la meilleure de voir. Parce que vous vous rappelez la semaine dernière, quand le président de la CENI a évoqué l'éventualité de saisir la Cour constitutionnelle pour avoir l'opportunité de reporter de quelques jours ou quelques mois, je ne sais pas, l'organisation des élections présidentielles, il y a les tollés qui s'est levé dans la classe politique. Et donc, on estime aujourd'hui quand même que l'idéal serait que la classe politique qui est constituée des acteurs majeurs devant concourir aux élections, que nous asseyons ensemble, que nous nous parlions les yeux dans les yeux et que nous puissions trouver un consensus.
Mais qu'est-ce qui prend la tenue de ce dialogue, puisqu'il y a des acteurs politiques qui sont prêts à aller avec vous, à accompagner la majorité dans ce dialogue convoqué par le chef de l'État?
Ce n'est pas accompagner la majorité, ce n'est pas un dialogue de la majorité présidentielle, c'est un dialogue entre tous les Congolais. C'est pour cela que si le dialogue ne se tient pas, c'est parce qu'il y a quelques personnalités politiques qui comptent, qui ne sont pas encore prêts à venir à ce dialogue. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation comme celle que nous avons connue aux concertations nationales, où la majorité s'est retrouvée avec quelques opposants, mais beaucoup sont restés en dehors. Quelle est l'importance de devoir refaire ce qui a déjà été fait si on ne veut pas arriver à un résultat qui permet à ce qu'il y ait un consensus?
Vous allez attendre que ces personnalités politiques acceptent finalement de venir au dialogue pour convoquer ce forum?
Mais je crois que l'idéal serait quand même qu'il y ait une grande frange de la classe politique congolaise puisse être là. S'il reste quelques gens qui ne veulent pas venir après que la grande majorité ait trouvé un consensus, bon, ça peut passer. Mais je crois l'idéal, c'est que nous devons faire en sorte qu'une grande majorité s'asseye autour d'une table et que nous puissions trouver un consensus sur toutes ces questions-là qui ont été évoquées par les chefs de l'État, qui l'ont été encore par d'autres acteurs nationaux comme internationaux, qui veulent que on trouve un moyen de faire des élections crédibles, consensuelles et surtout dans la paix.
Merci François Nzekouye Delice Sanga. Vous êtes, vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique En Vol. Quelle est votre lecture de la déclaration de Mamane Sidikou qui estime que le processus électoral en RDC est dans une impasse et qu'un dialogue serait vraiment indispensable en ce moment?
Nous partageons le fait, la position du représentant du secrétaire général sur cette question. Personne de sensé ne peut dire le contraire. Sauf que nous considérons que dans la classe politique, en particulier le président Joseph Kabila et sa majorité, ont conduit depuis quelques années une politique qui a plongé le pays là où il en est. Et nous souhaitons que si des initiatives doivent être prises, que la majorité arrive déjà à se déconnecter des options politiques qu'elle a prises, qui sont celles de ne pas pouvoir tenir les élections après avoir supprimé le deux tours de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on veut supprimer carrément l'élection. Et la résolution du Conseil de sécurité qui a été votée cet après-midi, la 2277, est quand même assez claire sur le fait qu'il faut promouvoir le dialogue en accord avec les dispositions de la Constitution. Et de ce point de vue, nous pensons que le premier acte qui devrait pouvoir être posé, c'est l'assurance que le président de la République doit pouvoir donner.
Et vous avez besoin de quel genre d'assurance?
L'assurance que le président de la République doit pouvoir donner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue à tenir en vue de réviser la Constitution, ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'il n'y aura pas de troisième mandat à donner au président Joseph Kabila, étant entendu qu'il a exercé les deux mandats. Et que, en ayant pris conscience de la gravité de la situation, que toutes les autorités publiques puissent, au regard des différents problèmes, à afficher une attitude qui montre qu'ils sont à la mesure des problèmes.
Et parce qu'il n'aura pas dit ça, vous allez boycotter ce dialogue.
Ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire que le premier problème, c'est que pour rester en accord avec la Constitution aujourd'hui, le plus grand problème, il faut arrêter de tourner autour du pot, c'est que le mandat du président de la République ne peut pas aller au-delà des délais constitutionnels, et c'est ce qu'est dit la résolution du Conseil de sécurité, les élections dans le délai, les législatives et les présidentielles, auxquelles il faut accorder une priorité, et ensuite, par rapport aux problèmes qui se posent, qui sont présentés comme étant liés au processus électoral, il faut une attitude responsable. Lorsque vous avez le rapport de la francophonie qui a établi, qui a fait l'audit du fichier électoral et indique les pistes pour réviser le fichier électoral, que fait la majorité, que fait la CNI? Elle adopte justement une attitude contraire. Là où on aurait pu réviser le fichier électoral avec l'appui des partenaires dans les délais très courts, elle préfère lancer un appel d'offres pour pouvoir recruter au-delà des délais constitutionnels et donc de reculer d'autant les échéances. Deuxième élément, c'est que par rapport à la tenue des élections qui sont prioritaires, je rappelle que nous avions déjà un calendrier que nous avions commencé à exécuter l'année dernière, à la suite de la décision de la majorité, c'est-à-dire du gouvernement, de ne pas pouvoir allouer les moyens nécessaires à la CNI, il a été incapable de mettre en mouvement ce calendrier. Donc d'un côté, on ne peut pas dire qu'on
se rend compte. Pour vous,
je vais y venir, parce que nous avons des propositions aussi concrètes de ce point de vue. Parce que dès lors que l'on dit qu'il faut faire un dialogue qui soit en accord avec la Constitution, nous sortons nous d'un congrès que nous avons tenu à Gnocchi, nous avons rendu public nos positions en disant, au niveau de l'envol, que la discussion doit se faire mais autour de la revitalisation des institutions. On ne peut pas sortir complètement du cadre institutionnel et en même temps vouloir les renforcer. Qu'est-ce que je dis par là? Si le président de la République se prononce effectivement qu'il ne brigue pas un nouveau mandat, qu'il n'y a pas lieu à réviser la Constitution, c'est déjà un message d'apaisement. Ensuite, dans les cadres des institutions, la majorité et l'opposition, le président de la République n'a pas été le premier à le proposer. J'ai dit, nous l'avons proposé lorsque j'ai retiré ma loi électorale en décembre 2014, il y a déjà 2 ans de cela. Nous avions proposé, j'ai proposé, j'ai écrit à toutes les autorités pour qu'on puisse discuter. Mais justement, puisque dans le camp de la majorité, il n'y a pas la volonté d'aller vers l'organisation des élections, nation et de confisquer le pouvoir et de l'exercer en dehors des règles que nous nous sommes données. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le processus se complique.
Merci, monsieur Setanga. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur, comment vous analysez cette déclaration de Mamane Sidikou? Vous êtes en ligne, professeur? Je crois qu'on a perdu le professeur. La réalisation va essayer de le retrouver. François Nzekouye, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Lualaba.
Jacques Capens, depuis Dilolo, dans la province du Lualaba. La majorité de la population congolaise a adhéré massivement à l'initiative du chef de l'État d'organiser un dialogue inclusif permettant de baliser le terrain pour un processus électoral crédible et apaisé. Cependant, le retard observé dans la matérialisation de ce forum semble devenir l'arbre qui cache la forêt. Cette situation risque donc d'hypothéquer le processus électoral si le chef de l'État, Joseph Kabila, garant du bon fonctionnement de la nation, ne fait pas attention.
Oui.
Je crois qu'il faut qu'on y arrive. Et je crois qu'il y a un consensus qui est en train de se dégager. Je suis heureux que Delis Sanga nous rappelle qu'il ait été le premier à proposer les dialogues, c'est qu'il est pour les dialogues, et d'autres sont pour les dialogues. Et donc, je crois que...
Après, que le chef de l'État dise qu'il ne va pas se présenter, qu'il ne va pas briguer un troisième mandat.
Quand vous devez dialoguer... On ne met pas de conditions. Allez écouter l'autre et posez sur la table vos conditions. C'est cela, en fait, l'essence d'un dialogue. Parce que quand vous voulez dialoguer, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Sinon, vous l'auriez dû comprendre directement. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de dialoguer. Si on veut dialoguer aujourd'hui, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la majorité. Nous, non plus, nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de l'opposition. Et nous devons nous mettre sur une table pour en parler. C'est cela, l'essence du dialogue. Parce que nous ne nous mettons pas d'accord sur un ensemble des choses, sinon les choses iraient comme sur des roulettes. Donc, l'idéal aujourd'hui, c'est que nous nous asseyons. Les conditions qu'eux, ils ont à poser, ils les posent au dialogue. Nous posons nos conditions et nous évoluons. Parce que, vous vous rappelez, quand la République était en guerre contre un certain nombre des rébellions à l'interne, je ne vais pas citer qui était... Est-ce que nous étions d'accord au départ, quand nous sommes allés à San City, ou quand nous sommes allés à Lusaka, au départ, ou à Gaborone? Il a fallu des rencontres et des rencontres pour que se dégage un consensus qui nous a permis de sauver le pays. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui et nous devons accepter, tenant compte de nos divergences, de nous asseoir pour pouvoir régler la question.
Et donc la majorité conditionne la tenue des élections par le dialogue?
Non, nous ne conditionnons rien. La majorité n'est pas pouvoir organisateur des élections. Mais simplement, la majorité constate qu'à l'allure où nous allons, il ne sera pas possible d'organiser les élections présidentielles et législatives dans les délais. Nous faisons quoi en responsable? Nous laissons la case Congo brûler? Nous voulons créer l'anarchie, les villes institutionnelles? Non. Autant nous avons accepté aujourd'hui que les sénateurs qui sont hors mandat, je crois que la Constitution prévoit qu'ils soient réélus 5 ans après leur mandat, les gouverneurs, les députés provinciaux, nous estimons que dès lors que les institutions censées les remplacer ne sont pas encore là, ils restent en fonction et ils les sont 4 ans au-delà de leur mandat. Et donc aujourd'hui, nous ne devons pas polémiquer pour savoir si Kabila restera un jour, 2 jours ou 10 jours de plus. La question, le plus tôt nous allons nous asseoir, parce que Kabila a convoqué comme ce dialogue
depuis novembre, si vous voulez,
voilà,
il y a eu
dialogue,
une ordonnance présidentielle.
Ça fait 6 mois que
le
nous tergiversons. Certains disent
attendu.
Nous venons, demain vous dites nous ne venons pas.
Mais allez avec ceux qui sont prêts.
C'est que nous allons finir par y aller de toutes les manières. Nous allons finir par y aller. Mais la sagesse, comme je l'ai dit au début de cette émission, est que nous puissions avoir une grande majorité pour qu'il n'y ait plus de prétexte de dire nous avons été exclus, nous n'avons pas participé, c'est pour cela que nous prenons les armes, c'est pour ça que nous faisons ceci ou cela.
Merci François Nzekouye. On me signale que le professeur Moïla Tchiembe est en ligne. Vous m'entendez, professeur?
Oui, je vous entends, madame.
Alors, je disais, comment vous analysez la déclaration de Mamane Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC?
Disons que le constat qu'il fait est juste, non seulement
d'autres personnalités congolaises l'avaient déjà fait il y a longtemps, à commencer par le président de la République, M. Sesanga vient de dire la même chose, mais ce qui n'est pas tout à fait convenable, c'est que la classe politique congolaise n'est pas d'accord, ni sur les éléments constitutifs de ce constat, ni sur les conséquences qui en découleraient, ni sur les moyens, je m'explique. Sur le constat, le président de la République a expliqué au pays et au monde que la question fondamentale pour laquelle il convoquait le dialogue, c'était la question du processus électoral. Et il avait le constat qu'il n'y a pas de moyens, donc il manque de moyens, à la fois les moyens financiers, les moyens législatifs, c'est-à-dire les lois, pour permettre à la CENI d'engager le processus. Or, sur ce constat, le pays est divisé entre la majorité et l'opposition. Pour les uns, les moyens existent, mais il manque la volonté politique de les engager. Pour une partie de l'opinion, le président de la République et le gouvernement ont raison, les moyens manquent cruellement. Alors, sur l'OTAN, pour les uns, il n'y a plus de temps. D'ailleurs, la CENI a embrayé pour dire, ben, même nombre d'experts sont venus sur votre plateau et ailleurs, dire qu'on n'a plus assez de temps pour faire ne fût-ce que les élections primordiales qu'il faut, et qu'il faut un temps supplémentaire. Certains ont même parlé de transition d'un mois, deux mois, trois mois, et j'en passe les meilleurs. Mais sur cette question de temps, une partie de l'opinion congolaise, notamment de l'opposition, pense qu'il y a le temps. Si on accélère la cadence dans le peu de temps qui reste, il est possible de faire non pas l'ensemble des élections, mais à tout le moins l'élection présidentielle. À conséquence, sur la conséquence à tirer de cette situation de l'impasse, tout le monde n'est pas d'accord entre majorité et opposition. Il est quasiment acquis dans le consensus, juriste et politologue ou autre, que dans l'état actuel des choses, la Constitution, notamment l'article 70, a prévu que le président de la République sortant reste à la tête de la République jusqu'au moment, effectivement, où son successeur sera élu et le remplacera. Mais cette disposition constitutionnelle, article 70, n'a de sens que si elle est reliée à l'autre disposition, c'est-à-dire l'engagement ou la mise en œuvre du processus de l'élection du président de la République en question. Parce que s'il n'y a pas d'élection du président de la République, on ne peut pas honnêtement engager le processus prévu par l'article 70. Et là aussi, l'opinion des Congolais est divisée. Pour les uns, quoi qu'il advienne, qu'il y ait élection présidentielle ou non, le président de la République doit garder la maison jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, ça veut dire quoi? Ça peut être un an, ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, ça peut être quatre ans, voire cinq ans. Dois-je rappeler que depuis 2006, le Sénat n'a jamais été renouvelé. Les gouverneurs de province n'ont pas été renouvelés. Les députés provinciaux n'ont pas été renouvelés. Donc il n'est pas certain que dans deux ans, dans trois ans, les élections présidentielles puissent être organisées. Donc sur cette question, tout le monde n'est pas d'accord. Et dernier élément de discorde, la solution de sortie de crise. Oui, il faut le dialogue. Le président de la République a dit il faut le dialogue, ce sont des questions essentielles, il faut qu'on en discute. Mais alors, sur ce dialogue, tout le monde n'est pas d'accord entre majorité et opposition. Pour les uns, c'est le chemin le plus en vue, on ne peut pas aller au-delà du dialogue, et dialoguer fait partie de la démocratie, etc. L'opposition pense qu'il s'agit là d'un très clair, c'est-à-dire une sorte de tricherie. On nous amène les yeux bandés pour nous amener, carrément nous conduire au débordement, c'est-à-dire demain, modifier la Constitution, faire remplir le président de la République sortant pour un troisième mandat, etc., etc. Voilà là où le bas blesse. Si le constat, tout le monde est d'accord, l'opinion congolaise est réellement divisée entre la majorité et l'opposition sur les fondamentaux mêmes et sur le constat et sur les voies et moyens de sortir de la crise. C'est ça qui fait encore au-delà de l'impasse, qui complique encore la situation.
Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge, professeur.
On n'est pas sorti de l'auberge, parce que pour les uns, si par malheur les élections présidentielles n'étaient pas organisées ou même en voie d'être organisées, une partie des juristes considère qu'on va sortir carrément du cadre de fin de mandat pour aller dans le processus de, la fin du pouvoir, c'est-à-dire on sort carrément de la situation de mandat pour aller dans la question de vacance de pouvoir. Or, sur cette question, entre où il y a des élections présidentielles qui commencent et auquel cas, dans l'esprit du constituant, le chef de l'État sortant tient la maison jusqu'à ce que le processus des élections présidentielles se termine et qu'il passe le témoin à son successeur. Mais si ces élections n'ont pas lieu dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Certains juristes et certains politiques congolais, on doit faire basculer la question vers la vacance de pouvoir, et ce qui pose encore un autre problème. Nous, les Congolais, ne sommes pas d'accord sur l'idée même de vacance de pouvoir.
Merci, voilà, professeur Moïla Adeli. C'est ça qu'on va prendre pour vous, cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Takobi Paoumi Désiré, depuis Lubumbashi, dans la province de Yokatanga. Je pense que la déclaration du représentant du secrétaire général de l'ONU est exacte, car mignore l'impasse dans laquelle le processus électoral se trouve en RDC. Quant à la demande d'organiser un dialogue crédible de tous les acteurs politiques, je pense que c'est un appel à la responsabilité de tous les acteurs politiques qui font une question des problèmes. C'est aussi un signal fort que la situation politique de la RDC est suivie de très près par l'ONU.
Alors vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne. Est-ce que vous avez compris la préoccupation de cet auditeur, M. Sessanga?
Bon, je crois comprendre qu'il appréciait la justesse de la proposition ou de la position du représentant spécial. Mais
c'est appelle les acteurs politiques
à plus de responsabilités. L'opposition que nous sommes, nous avons toujours pris nos responsabilités, mais il faudrait éviter 3 choses. La première, c'est la fantaisie de la majorité, qui, face à des situations sérieuses, vous avez un gouvernement qui est celui de la majorité qui vous dit qu'il n'a pas 2 millions pour organiser une élection de gouverneur de province, qui est incapable de mobiliser les moyens nécessaires pour la CENI et qui s'est contredit sur le volume de crédits réellement affectés à la CENI. C'est un manque de volonté politique. Ensuite, quand vous suivez mon co-débatteur, l'honorable Nzekouye, il vous parle sur le modèle du Sénat comme si c'était une donnée qui doit devenir un précédent devant nous être imposé, c'est-à-dire que si on n'organise pas les élections dans le délai, le président de la République peut glisser dans son mandat, puisque le Sénat a glissé. Je pense que cette analogie qui est faite n'est pas correcte. La Constitution est beaucoup plus ferme en ce qui concerne le mandat du chef de l'État, et c'est une question, et j'ai participé à toutes les négociations politiques de Lusaka jusqu'à Sun City, pour dire que la question du mandat du président de la République est une question qui déchire la nation. Si on la prend à la légère, comme la majorité tend à la prendre aujourd'hui, nous allons au-devant des graves difficultés. La majorité, depuis quelque temps, s'ingénie à aggraver les problèmes là où ils ne sont pas. La chose qu'il faut faire, c'est que le président de la République doit faire cette annonce et ensuite, la CENI doit pouvoir commencer à travailler. Parce qu'aujourd'hui, la CENI est prise en otage par la majorité. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle est prise en otage. Elle peut rejeter, mais les faits sont là, ils sont têtus et on peut les observer. La majorité prend en otage la CENI. Il faut qu'elle libère la CENI, que la CENI organise les élections avec un minimum de bon sens. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour se rendre à l'évidence que pour réviser un fichier électoral, là, on peut faire 4 mois. On va prendre le chemin le plus long, alors qu'on a déjà des délais qui sont critiques. Et cela traduit le manque de volonté dans le chef de la majorité de pouvoir aller vers les élections. Ensuite, quand nous disons le dialogue, si le président a fait cette déclaration, ça va apaiser la situation, et je pense que l'abbé Malumalu à son époque, et c'est prévu par la loi sur la CENI, qui vient faire son rapport devant l'Assemblée nationale, dans ce cadre-là, à titre paritaire, à majorité, opposition, avec les partenaires, nous pouvons amorcer, dans les cadres des institutions, des discussions pour des réglages des problèmes strictement techniques. Et cette proposition, nous l'avons faite et nous avions commencé les travaux autour de la CENI à l'époque, et c'est la majorité qui est sortie pour dire qu'elle ne voulait pas continuer les travaux dans le cadre de la tripartite. Sans doute aujourd'hui cette proposition est dépassée, mais nous pouvons la réinventer au travers des institutions. Parce que le dialogue dont parle la majorité, le dialogue de Joseph Kabila aujourd'hui par l'ordonnance, c'est quoi? C'est amener les musiciens, c'est amener le folklore, c'est amener les chefs coutumiers, toutes ces catégories pour lesquelles j'ai beaucoup un immense respect et une déférence parfois, mais qui par rapport aux problèmes spécifiques qu'ils nous posent, ne nous seront d'aucune utilité. L'utilité aujourd'hui, c'est de pouvoir parler des problèmes réellement techniques. Si ce qu'ils disent est vrai, les problèmes sont techniques, il faut les aborder entre l'opposition et la majorité, mais dans le cadre des institutions, pour faire des réglages à la marge. Parce que si 90 jours avant la fin du mandat de Joseph Kabila, on n'a pas amorcé les discussions, on n'a pas amorcé le processus électoral, je peux vous avouer que nous allons nous retrouver effectivement dans un cas de vacances de pouvoir, et ce cas de vacances d'empêchement définitif du président de pouvoir exercer lui fera perdre la légitimité, et cela va jeter le pays dans de troubles beaucoup plus importants.
Merci.
Alors, je finirai sur un mot. Juste un petit mot. Voyez-vous, alors que les problèmes de sécurité sont énormes, la même majorité est à même de proposer qu'on puisse réduire les effectifs de la MONUSCO de 10 000, en sachant que nous avons des problèmes de droits de l'homme, de protection des civils et un contexte tendu. Ça dénote de la mauvaise foi dans cette majorité de
merci,
vouloir piéger le processus et la démocratie
merci,
dans le pays.
Merci, M. Sesanga. Professeur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Martin Kalamba Mwamba de Kinshasa, M. Maman Tidikou a tout à fait raison, car les obstacles deviennent légions, notamment la révision du fichier électoral, l'enrôlement de jeunes majeurs et des diasporas, la transition, les financements et autres. À mon avis, ce dialogue n'a plus de son sens d'être aussi longtemps que la Constitution résout tout. Le dialogue est bon, mais il est tard. Soit il y a les élections avec ou sans révision du fichier électoral, dans le délai constitutionnel, soit on constate une vacance présidentielle et quelqu'un d'autre organise les élections le 27 novembre 2016, tel que prévu par la Constitution.
Professeur, comment vous répondez à cet auditeur?
Mais cet auditeur a parfaitement raison de mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire dans cette incongruité de l'opposition, de l'opinion publique congolaise, qui est divisé, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les élites congolaises, que ce soit dans la classe politique elle-même. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce soit sur la nécessité du dialogue, bien entendu, l'opinion est divisée. Il y en a qui pensent que c'est la voie royale qu'il faut y aller, et une autre partie des Congolais qui pensent que la solution de sortie de l'impasse et dans la Constitution, il suffit seulement de la respecter pour sortir le pays de cette crise de légitimité qui est devant. Voyez-vous que c'est un peu paradoxal. Le président Joseph Kabila est la personne sur le leadership duquel, pour la première fois depuis le 30 juin 1960, le Congo est sorti de la crise de légitimité. Et voilà que, d'une manière inattendue, à la fin de son deuxième mandat, il sera lui-même. Il court le risque, le pays court le risque avec lui, de le voir pris en otage par les institutions qui ont failli à leurs obligations dans le processus d'organisation des élections. Vous avez entendu le président de la CENI dire que le gouvernement ne lui a pas donné les moyens. Et dire également que l'Assemblée nationale ou le Parlement n'a pas donné de loi nécessaire. Alors si c'est la CENI qui ne choisit pas, qui ne fait pas le choix de la priorité de l'élection présidentielle au détriment d'autres élections, c'est-à-dire le reliquat de 8 ou 9 autres élections. Alors, si la CENI ne fait pas un choix d'une élection prioritaire, si le gouvernement ne fournit pas les moyens à la CENI, si le Parlement ne donne pas des lois, bah, il est à craindre que le président de la République, à son corps défendant, en tant qu'institution, j'entends, soit pris en otage par ces institutions, et qu'on aboutisse à la crise qu'il avait pu régler grâce à son leadership. Je dis qu'il n'était pas le seul. Il y a eu, bien sûr, d'autres collaborateurs, que ce soit les 1 plus 4, mais il a été un de, parmi les premiers à agir en sorte que les chefs de guerre, dès lors qu'il avait accepté l'idée de partager le pouvoir, les autres sont venus, que ce soit le MLC, le RCD et bien d'autres, le rejoindre pour créer le consensus à la fois de l'Afrique du Sud et de 1 plus 4 qui a permis le pays d'en finir avec la transition. Or, si on y prend garde, on arrive maintenant devant cette difficulté qui avait déjà été réglée voici bientôt une dizaine d'années. C'est un paradoxe étonnant. Est-ce que le pays a vraiment les raisons d'aller tomber dans cette crise et de courir les risques de guerre ou de violence dont parle le Conseil de sécurité et à travers M. Sidikou? Je n'en sais rien, mais c'est là le débat sur lequel, évidemment, tout le monde parle, y compris la personne qui vient de prendre la parole tout à l'heure.
Merci, professeur Moïla. François Ndékouyé, il y a Gratien Boité de Kinshasa qui dit ceci, ce qui doit retenir l'attention et non seulement l'appel au dialogue comme le soutien les amis de la majorité présidentielle, mais c'est le qualificatif crédible. Tout politicien avisé trouve que le dialogue prôné par le président de la République cache beaucoup de choses. C'est ce qui retient les pieds des opposants.
En fait, encore une fois, ce sont des procès d'intention. Je crois que tout le monde, nous sommes d'accord qu'il faille qu'on s'assoie. Et plus nous perdons le temps, plus nous allons dans l'impasse. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on aille dans l'impasse. Parce que, Kelly, si la classe politique avait accepté au lendemain de l'annonce de ce dialogue par Kabila en novembre, nous aurions pu régler un certain nombre de problèmes déjà. Mais qui ne veut pas de dialogue aujourd'hui? Est-ce que c'est la majorité?
Mais une classe politique a accepté ce dialogue.
Qu'est-ce que je suis en train de dire, madame? On a eu des dialogues déjà. On a eu les concertations nationales qui n'ont pas réglé les problèmes en entièreté. Et donc aujourd'hui, on ne dialogue pas pour dialoguer, on veut dialoguer pour résoudre les problèmes. Et ne pas tomber dans l'impasse. Mais au-delà de ça, il faut qu'on cesse de faire croire au peuple congolais que le président de la République va se retrouver dans une position de vacances de pouvoir s'il n'y a pas d'élection. Parce que la légitimité du chef de l'État est constitutionnelle. L'article 70, deuxième alinéa, dit « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » C'est clair. Effective du nouveau président élu. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'élection, tant qu'il n'y a pas un nouveau président effectivement élu, il est légitime. Et donc, j'estime
et
que...
Il a un autre débat, chacun interprète cet article à sa manière.
Autant que nous acceptons, lui et moi, de siéger avec les sénateurs qui ont dépassé leur mandat, autant nous devrons accepter. Mais nous devons éviter, par nos attitudes à chacun, qu'on en arrive là. L'idéal serait que en décembre 2016... qui est passation de pouvoir. Mais qui ne veut pas qu'on organise l'élection dans les délais? Qui bloque ce dialogue que tout le monde a voulu, si ce n'est pas l'opposition? Et l'opposition doit assumer sa responsabilité dans ces blocages et reconnaître que c'est de sa faute aujourd'hui que nous n'ayons pas encore dialogué. Et donc, on ne doit pas jeter la responsabilité tout le temps à la majorité et dire que la majorité joue son jeu au moment où la majorité a accepté cette main tendue de l'opposition d'organiser les dialogues et une fois annoncé, l'opposition se rébiffe. C'est une responsabilité de sa part de reconnaître sa faute et de faire mea culpa. Et l'idéal serait qu'on accepte le plus rapidement possible, qu'il déclare autant qu'il demande à Kabila de faire des déclarations, qu'ils doivent déclarer leur acceptation d'aller au dialogue pour qu'on règle les différends qui peuvent exister et qu'on avance.
Monsieur Sessangaya, Alain Bolodwa, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit ceci, toute proportion gardée, le rapport du chef de la MONUSCO traduit fidèlement les réalités sociopolitiques de notre pays. Il serait imprudent et même absurde de se précipiter à organiser les élections alors que certains indices présagent déjà une situation post-électorale chaotique devant un environnement aussi pollué par des politiques, voilà ce qu'il dit, le dialogue apparaît indubitablement un adjuvant essentiel pouvant garantir des élections apaisées.
Oui, personne n'est contre ce processus. Lorsque l'abbé Malmalou est venu à l'Assemblée nationale, je crois en 2013, pour présenter les différents scénarios des élections, vous voyez bien que ça remonte au loin. La majorité n'a pas eu la justesse parce qu'elle avait son plan, elle voulait amener le pays là où dans l'impasse, et elle ne peut pas aujourd'hui vouloir solidariser cette responsabilité par des faire valoir comme le dialogue. Aujourd'hui, l'incapacité de la majorité à organiser les élections, c'est l'échec de cette majorité, c'est l'échec du président Joseph Kabila de n'avoir pas garantit la régularité du cycle électoral, de n'avoir pas assuré le fonctionnement régulier des institutions pour que le passage puisse se faire correctement. Et quand on veut aujourd'hui faire l'enjambée entre le Sénat et la position du président de la République, on se trompe à la fois des institutions et du rôle qu'ils ont. Le président de la République, c'est le premier magistrat de ce pays, c'est la clé de voûte de nos institutions, et il est dit dans cette même constitution que 90 jours avant la fin de son mandat, on doit pouvoir organiser les élections. C'est un impératif. Et ensuite, la transition à laquelle il fait part entre le président élu et le président en fonction n'a des valeurs que si le président élu est déjà là. C'est une transition conçue uniquement dans le cadre d'un processus achevé pour l'élection du nouveau président et qui attend son installation effective, et il y a un tour de passe entre les deux. Donc on ne peut pas l'étendre. Mais nous savons que la Constitution a trois niveaux de protection. Le premier niveau, ce sont les institutions, le peuple congolais. Le deuxième, les institutions à la tête desquelles se trouve le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le deuxième niveau, c'est la Cour constitutionnelle. Lorsque les institutions ont failli, comme c'est le cas aujourd'hui, qui est la débâcle de la majorité du président Joseph Kabila, et que la Cour ne fait pas son travail, eh bien, il restera au peuple de pouvoir s'assumer pour pouvoir imposer le respect de cette constitution.
Alors, en conclusion, M. Sessanga, il ne reste plus beaucoup de temps.
En conclusion, nous appelons une fois de plus le président de la République à un peu plus de responsabilité, d'être l'acteur de la solution au problème et de ne pas être un problème dans la résolution des problèmes des Congolais aujourd'hui, et de pouvoir se prononcer, de fixer son peuple sur son sort quant à l'avenir des institutions que nous avons patiemment
construites. Merci, Monsieur Délie Sessanga. François Nzekouye, votre conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus?
J'appelle la partie de la classe politique congolaise qui hésite encore à répondre à l'appel du chef de l'État et les conseils de nos amis de suivre la voie de la sagesse pour qu'ensemble on trouve la solution pour organiser des élections crédibles dans la paix.
Voilà, merci professeur Moïla, votre conclusion.
Il faut souhaiter que les institutions de la République qui ont la charge, la CENI qui a la responsabilité d'organiser les élections, la majorité présidentielle et l'opposition, qui est toute part composée de patriotes et de gens qui aiment leur pays, d'éviter que ce pays, pour la deuxième fois, ne plonge dans une crise de légitimité dont il était sorti voici à peine une décennie.
Merci professeur Moïla, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Alain Rung, sous la supervision de Julien Niamouini. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son, au micro Kéline Côté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.